Et avec vous, Lise, on va parler de la situation d'Israël dans le monde, mais pas qu'avec vous, bien évidemment. Il y a un invité. Je vous laisse le soin de nous présenter.
Alors, je suis ravie ce matin de recevoir Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue et vous avez deux actualités en ce moment. La 6e édition revue et corrigée de votre atlas géopolitique d'Israël vient de paraître chez Autrement. Et vous donnez ce soir à Paris à l'Institut Elie Wiesel et en Zoom, donc accessible pour tous nos auditeurs dans le monde, une conférence qui s'intitule « Panorama et réalité des mondes arabes contemporains, où se place Israël ?» Alors Frédéric, ce matin, je voulais revenir avec vous d'abord sur l'actualité d'aujourd'hui. Est-ce que c'est grave cette affaire avec Joe Biden et les États-Unis qui ne veulent pas recevoir Benjamin Netanyahou ?
Ben, c'est à la fois grave et très positif. Je veux dire par là que lorsqu'un président américain fait la tête à un premier ministre israélien, ça signifie quelque chose. Et ça signifie quelque chose de très négatif pour une raison simple, c'est que d'abord c'est relativement nouveau au regard des dernières décennies, et je dis bien relativement, parce que il faut se souvenir que Barack Obama n'était pas extraordinairement souriant les rares fois où il recevait Netanyahou non plus. Mais en tout cas, voilà, mais en tout cas, c'est relativement nouveau. Mais et surtout, ça signifie qu'il y a, sinon risque, en tout cas sujet, comme le disent les jeunes, sur des relations qui sont fondamentalement importantes, d'ailleurs pour les deux pays, mais évidemment surtout pour Israël. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est quand même quelque chose qui relève du positif, c'est que Joe Biden et d'ailleurs non seulement lui, mais le Parti démocrate, l'administration actuellement au pouvoir et la majorité de la population, d'opinion publique américaine, ne sont pas hostiles à Israël, mais c'est bien au contraire parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que l'actuel Premier ministre et sa coalition de droite dure constituent une menace sur ce que ces Américains aiment, c'est-à-dire le caractère authentiquement démocratique d'Israël, qu'ils font la tête. Vous voyez, c'est intéressant. Donc on a aujourd'hui quelque chose d'important, ça signifie qu'effectivement, aux États-Unis, on l'a bien vu d'ailleurs avec la récente tournée de M. Blinken au Proche-Orient, en réalité, je le dis d'un mot, M. Blinken n'a pas tellement tensé M. Netanyahou sur la question palestinienne qui n'avance pas, mais il l'a tensé, comme l'a fait récemment Joe Biden, sur la question institutionnelle interne d'Israël.
Alors, pourquoi les États-Unis, d'une manière générale, mais aussi des tas d'autres pays, peuvent se mêler comme ça des affaires intérieures d'Israël, Frédéric Ancel ?
Oh là, alors question très philosophique. D'abord, en principe, l'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, elle est toujours très très mal considérée. D'ailleurs, la charte de l'ONU de 1945, a priori, accorde des prérogatives quasi totales, sinon totales. Après, il y a eu quelques petites améliorations dans les années 2000. Mais enfin, franchement, la sacro-sainte souveraineté, effectivement, elle est reconnue, revendiquée, etc. Ce qui n'empêche que les États, la plupart des États, s'intéressent aux questions intérieures de leurs partenaires, et en l'occurrence de leurs alliés lorsqu'il s'agit des États-Unis et d'Israël, surtout dans les démocraties. Et là, je dois dire qu'on ne peut pas à la fois admettre comme tout à fait positif le fait que la Belgique, la France, les États-Unis, voire Israël, s'intéressent à des questions intérieures et de temps à autre à des répressions très dures menées par des régimes, en ce moment l'Iran par exemple, sur leur propre population, et aujourd'hui considérer que, même s'il n'y a pas répression, évidemment, la question est tout à fait différente, et de considérer qu'aujourd'hui, ces mêmes démocraties n'auraient pas le droit de dire à un Premier ministre israélien, écoutez, là, nous constatons bien qu'une grande partie de votre population conteste votre politique, parce qu'elle mène à un coup de canif, elle correspond à un coup de canif dans ce qu'on aime notamment chez vous, c'est-à-dire les démocraties. Vous voyez, on ne peut pas à la fois vouloir s'ingérer dans les affaires des régimes autoritaires, et en même temps, lorsque nous ne sommes pas d'accord éventuellement avec la politique d'un Premier ministre israélien, ne pas s'en mêler. Ce serait, me semble-t-il, un paradoxe tout à fait douteux.
Alors, les événements internes en Israël, ils ont d'énormes répercussions sur la façon dont le pays est perçu à l'international, et ça fait tout de même l'affaire des antisémites. C'est compliqué, cette situation, pour les Israéliens, non ?
Alors, moi je serais plus, enfin, je serais nuancé. D'abord, les antisémites n'ont pas besoin que Netanyahou fasse telle ou telle politique, y compris d'ailleurs vis-à-vis des Palestiniens, pour être antisémite. Donc moi, je pense que la boussole, le cordeau ne peut jamais être celui des antisémites, qu'on ne fera pas changer et qu'il est inutile de tenter de faire changer. Après, sur les gens de bonne foi et de bonne volonté qui, de temps à autre, voire souvent, critiquent Israël, là, je pense qu'on a au contraire affaire à quelque chose d'extrêmement positif. Voilà que les amis d'Israël, depuis de longues décennies, s'échinent et s'acharnent à dire, à juste titre, qu'Israël est une authentique démocratie et que la population israélienne est dotée d'un très haut niveau de conscience démocratique, et qu'aujourd'hui, on en a la démonstration. Et qu'Israël en fait la démonstration. Jusque, y compris des ministres de la Défense en exercice, des caciques du Likoud, des anciens ministres de la Défense ou des chefs du Shin Bet, des ambassadeurs, une partie du centre droit de la classe politique, etc., etc. Vous le voyez tous les jours comme moi et vos auditeurs aussi. Donc non, je pense que de ce point de vue-là, quelque part, c'est ce qui est en train de se passer. Et d'abord, je pense positif pour la démocratie israélienne elle-même, mais positif finalement pour l'image d'Israël. Netanyahou lui-même, non, mais ça, de toute façon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas une critique personnelle, mais enfin, manifestement, lorsque un gouvernement de droite nationaliste allié aux ultra-orthodoxes est au pouvoir en Israël, écoutez, dans les opinions européennes, sauf peut-être en Hongrie, enfin, franchement, on trouve pas ça génial. Et au moment où il est contesté, où il doit reculer sur une réforme semi ou voire carrément antidémocratique, la population israélienne est dans la rue. Donc, je pense qu'en termes d'image, ce qui est en train de se passer est très positif.
Alors, vous parliez de l'Iran tout à l'heure, Frédéric Ancel, avec la montée en puissance de l'Iran et son implication notamment dans la guerre en Ukraine et même ses rapprochements récents avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que, à votre avis, les accords d'Abraham ont vraiment du plomb dans l'aile et l'Iran en profite?
Ah, mais les accords d'Abraham n'ont absolument pas de plomb dans l'aile. Alors, écoutez, moi, je reviens d'une tournée de conférence au Maroc. Bon, l'un des quatre pays et non le moindre. Signataire des accords d'Abraham, voilà un peu plus de 3 ans maintenant. Alors, vous avez des réactions différentes au sein de la population, chez des officiels, des officiers, des diplomates, des lycéens, des professeurs, des gens que j'ai pu rencontrer, qui sont tous favorables à la création d'un État palestinien, ce qui, franchement, est le cas de la moitié de la population israélienne. Bon, de ce point de vue-là, et c'est ce que préconise l'ONU. Mais je n'ai rien entendu de virulent vis-à-vis d'Israël, et pas davantage cette fois-ci, que lors de mes dernières tournées de conférences qui remontaient à avant la création de ce nouveau gouvernement israélien en novembre-décembre 2022. Maintenant, je vais vous donner un fait. Je ne suis pas récemment allé aux Émirats Arabes Unis. J'y étais il y a quelques mois, mais là, pas récemment, pas depuis l'avènement du gouvernement Netanyahou. Mais regardez ce qui s'est passé hier. La signature officielle d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Ah bah écoutez, c'est quand même très concomitant avec ce qui est en train de se passer dans la rue israélienne.
C'est vrai.
Donc, c'est pour vous dire que les États, mais d'ailleurs c'est intéressant, ça revient à votre question tout à fait passionnante de tout à l'heure, les États ont essentiellement, pas que, contrairement à ce que disait Hegel, mais les États ont essentiellement des intérêts. Pas que, mais ils ont surtout des intérêts. C'est-à-dire que la boussole géopolitique des Émirats Arabes Unis aujourd'hui, pardon pour les Palestiniens, mais elle ne correspond pas du tout à ce qui est en train de se passer en interne en Israël, qui se fiche complètement, ni même ce qui est en train de ne pas se passer sur le dossier palestinien. Les Émiratis ont d'autres intérêts, les Marocains ont d'autres intérêts, les Bahreïniens et les Soudanais aussi.
Donc vous nous dites, Frédéric Ancel, qu'Israël a encore de vrais amis dans le monde arabe et notamment le Maroc.
Attention, Israël a des partenaires. Je n'ai pas parlé d'amitié, moi. Dans les relations internationales, si vous voulez, l'amitié, c'est quelque chose, c'est un horizon jamais atteignable par définition, excusez-moi. Oui. Donc c'est un pléonasme. Horizon jamais atteignable. Une coopération, mais bien sûr, mais notamment dans le high-tech, notamment sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, sur le plan de l'agriculture, etc., bien sûr.
Ma dernière question, Frédéric Ancel. La guerre en Ukraine a bouleversé l'Europe et sa diplomatie. Est-ce que la position d'Israël est un peu difficile à tenir parce que, entre ses intérêts avec la Russie et son vœu d'aider l'Ukraine, ça change aussi, ça, l'image d'Israël, cette guerre en Ukraine?
Alors oui, dans une certaine mesure qui est celle de l'implication israélienne, c'est-à-dire une mesure extrêmement faible. Et vous avez raison, c'est une position difficile à tenir. C'est quand même le cas pour une bonne cinquantaine de pays dans le monde. C'est-à-dire qui ne sont pas inféodés ni à Washington, ni à Moscou ou à Pékin, et qui donc, s'abstiennent. Alors en l'occurrence, Israël s'est pas abstenu à condamner l'agression russe. Enfin, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas assumer trop ou carrément ne peuvent pas assumer de sanctions contre la Russie. Mais il y a quelques semaines de cela, lorsque Netanyahou a finalement laissé entendre qu'il allait accepter qu'Israël vende des matériels, en tout cas des composants pour des matériels militaires anti-aériens ukrainiens, c'est là que M. Blinken a recommencé à sourire. C'est là que M. Macron a accueilli M. Netanyahou avec le sourire, alors que franchement, sa politique ne lui plaît pas aux locataires de l'Élysée. Mmh. Donc, si vous voulez, oui, vous avez raison, c'est Israël a été très gêné et a quand même finalement rejoint timidement le camp occidental, ce qui lui a valu effectivement de marquer des points politiques et diplomatiques.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Votre atlas géopolitique d'Israël est chez Autrement. Et ce soir, pour tous nos auditeurs, dont je sais qu'ils sont ravis de vous entendre, une conférence, Panorama et réalité des mondes arabes contemporains, où se place Israël. C'est sur Zoom, il n'y aura pas de replay, donc c'est ce soir à 20h. Merci, à bientôt.
Merci à vous.